Cube Radio.
J'aimerais savoir des bureaux comme Ubisoft à la place qu'il y a ici. À chaque fois que je vais chez Ubisoft, je suis comme, oh, c'est tellement hot.
Ce serait cool, non? Parce que les bureaux d'Ubisoft sont à côté de ma tatoueuse. Fait que je pourrais juste aller me faire tatouer pendant le midi.
Mais t'as marre.
Salut à nos amateurs de camaraderie, de travail en équipe, de chiolage collectif et de boycottage. Et bienvenue au nouvel épisode de Pace or Start. Mon nom est Christine et je suis en compagnie de ma très chère collègue et amie Ekazi.
What up?
Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
On a déménagé.
On a déménagé, effectivement. C'est spécial, le déménagement. On a décidé d'enregistrer deux podcasts la journée du déménagement. C'est une très bonne idée.
On est bonne comme ça. Ouais. Alors... Alors, chaque semaine, on amènera dans vos oreilles un sujet lié de près ou de loin au monde des jeux vidéo. Et pour cet épisode-ci, on va parler d'un sujet qui est très important à mon cœur et à ton cœur aussi, et que certains studios s'en rendent compte beaucoup trop tard. On jase de quoi?
On parle des communautés et l'impact des communautés sur le jeu.
Très important.
Aujourd'hui, on a décidé de parler des communautés parce que, ben, on en fait partie, nous, de la communauté. Et je pense que les développeurs aussi, ben, à quelque part, sont des gamers, à quelque part.
Ben oui.
Bon, ils font partie de la communauté. Mais qu'est-ce qui se passe entre les développeurs et la communauté? Est-ce que la communication se passe bien? Aujourd'hui, on va parler de l'impact que le feedback peut avoir sur le jeu avant même qu'il soit sorti, des fois même sur le développement. On a parlé à Tribute Game il y a quelques épisodes justement sur l'impact de la communauté sur le développement d'un jeu en accès anticipé.
Oui.
Donc, quel genre de courant passe entre les communautés et les développeurs? Évidemment, on a des exemples où est-ce que ça a super bien été et des exemples où est-ce que ça a pas si bien été. Puis des exemples aussi où est-ce que les développeurs ont décidé, bon, on va se rattraper, on va parler avec la communauté. Et évidemment, ben, on a des invités spéciaux aujourd'hui de chez Ubisoft. On va faire une entrevue avec eux à la fin de l'épisode pour comprendre un peu leur point de vue à eux, parce que nous, on a le point de vue gamer.
Et média, ouais.
Exactement, et média. On vit ça totalement différemment que les développeurs. Donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui, sujet très chaud, je pense qu'on se sent très interpellé.
Très intéressant, ouais, c'est ouais. Ça interpelle énormément la communauté, puis ça interpelle énormément les développeurs aussi. Souvent, ils s'en rendent compte beaucoup trop tard.
Oui, c'est ça, ouais. C'est sûr. Ou des fois, il n'y a plus rien à faire. On pense surtout aux jeux peut-être plus rétro ou peut-être aux plus vieux jeux où est-ce qu'on n'avait pas l'opportunité de lancer un DLC pour peut-être se rattraper ou qu'il
n'y
a pas de mode en ligne où est-ce qu'on pouvait dire, OK, on va flatter nos gamers en sens du poil puis voir qu'est-ce qu'ils veulent. Où est-ce qu'on s'est trompé?
Exact. Puis là, la communauté a un impact qui peut être perçu négatif aussi sur un jeu des fois parce que un développeur, s'il écoute trop sa communauté, ben il peut s'en aller.
La communauté peut avoir tort, là.
Ben oui, tout à fait. Puis ils peuvent s'en aller à peu près dans tous les sens, là. Puis ça fait que le jeu, ben il est un peu broche à foin parce que tu sais des fois trop, c'est comme pas assez. Hein.
Ouais, mais tu sais, il y a aussi des exemples de jeux qui ont performé auprès des critiques, mais que la communauté avait ses propres problèmes, peut-être avec la compagnie ou avec certains trucs dans le gameplay qui ont pas plu à la communauté, puis que c'est devenu comme trop un gros problème. Puis finalement, ben, c'est comme on parle des loot box souvent, OK, on capote ces loot box, mais on les achète.
Ouais.
Fait que c'est comme, OK, ben à un moment donné, on va s'arrêter de chialer sur quelque chose dans lequel on participe.
T'sais. Ouais, ben, tu sais, c'est difficile de faire un boycott collectif quand personne n'écoute, là.
C'est ça, je m'excuse, mais moi, je les achète, là, les petits upgrades.
Ça. Moi, je vais les acheter pareil aussi. Mais c'est sûr que l'engouement aussi, donc le hype envers un jeu peut aussi être un impact très négatif sur un jeu. Puis je pense que un des exemples parfaits là-dessus, c'est Duke Nukem Forever.
I am the king of the world, baby.
Et là là.
Donc on jase d'un hype qui a duré 14 ans.
Un hype qui a duré comme toute mon adolescence.
Ben probablement. Il me semble que j'étais pas majeure quand ils ont annoncé que le jeu sortait.
Je me rappelle, j'avais appelé mon père. Je pense que je lui ai dit, papa, il va avoir une suite à Duke Nukem.
Ouais, c'est vrai que toi, tu joues avec ton père en plus.
C'est ça. Faites pas ça à la maison, by the way. Jouez pas à Duke Nukem avec vos enfants.
Non, faites pas ça.
Ça va mal virer.
Suivez pas notre exemple. Voyez qu'est-ce qui est arrivé. On est rendu ici, puis on a chaud.
Ça va vraiment pas mieux.
On enregistre un podcast. Mais c'est ça. Donc, on va se rappeler à la fin de Duke Nukem 3D. Là, il annonçait Look for Duke Nukem 3D sequel soon.
Soon. C'est comme Half-Life 3 soon.
Ouais, c'est ça, Half-Life 3 soon, d'ailleurs, qui n'arrivera jamais. Gang, s'il vous plaît, faites votre deuil. On se rappelle, là, après le succès énorme, là, 3D Realm,
ouais.
Wow, avait annoncé en 97 la sortie de Duke Nukem Forever. Donc, ça en venait. On a eu droit à des previews, des trailers en 2001, au E3. toujours pas de sortie.
Entre 97 et 2001, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Ça.
Dans...
Ben, ça a été le bordel là, dans le studio, on va le dire. Là. Ils ont changé de moteur deux fois. Ils ont dû refaire le jeu au complet à zéro parce que ils ont mal calculé leurs affaires. Là. Puis ben, quand c'est sorti, les gens étaient tellement hypés et tellement contents que ça sorte que quand ils ont mis le jeu dans l'ordi...
Now I'm really pissed off.
C'est une balloune d'essoufflée. Là. Il y a eu des notes, des mauvaises notes sont sorties. Donc 54%, 48%, 2 sur 3, 3 sur... Non, 2 sur 10, 3 sur 10. Puis ben, les gens étaient... tellement malheureux puis tellement pas content.
Mais est-ce que le jeu était si mauvais que ça? Moi, c'est ça que je me pose comme question.
C'est exactement ça que je me pose, parce que est-ce que le hype a nuit au jeu? Je pense que oui, parce que les gens étaient ultra déçus quand ils ont été chercher leur copie précommandée 14 ans avant.
Ouais.
Mais probablement les standards n'ont pas aidé non plus, parce que il y a eu des problèmes aussi. Le studio a fait faillite entre-temps. Il a été repris par un autre studio. Ça a donné que, tu sais, c'était nébuleux. Mais... ils ont essayé de se rattraper, ils ont sorti deux contenus téléchargeables, mais malheureusement...
c'était pas assez pour sauver le jeu.
C'était pas assez. Ils disaient, là, Duke Nukem a essayé, mais le passé les a rattrapés, puis malheureusement, ça a comme pas marché. Je pense qu'on devrait laisser ça dans le passé, puis on va laisser la prostituée dans le passé, là.
Mais ça, c'est comme un exemple un peu triste, là. Mais on a des exemples aussi surprenants et positifs et très heureux. Je pense qu'on en a peut-être même plus que des exemples négatifs. En tout cas, j'ose espérer, parce que dans ma tête, la communauté gaming en général est très passionnée. Puis tu sais, il y a la communauté gaming en général, puis en dessous de ça, il y a comme un arbre géant de petites communautés. Tu sais, on a les communautés Minecraft, on a les communautés de simulateurs comme moi, les Truck Simulator, on aime bien ça.
Et toi tout seul, les deux autres personnes.
Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, on a les RPG, les RTS. Il y a plein de petites communautés qui font justement, qui vont propulser leur jeu un peu plus vers le sommet, un peu plus vers le sommet tranquillement. Tu sais, veux pas, Minecraft, à la base, c'est peut-être pas un jeu qui aurait plu à tout le monde, mais c'est la communauté qui est tellement... été intense, que c'est monté au sommet tranquillement. Puis là, monsieur, madame, tout le monde sait un peu c'est quoi.
Ben, t'sais. Exactement. Puis c'est surtout, la communauté a aidé à bâtir le jeu.
Exactement.
Parce que il y a beaucoup... D'ailleurs, je salue énormément le directeur de Microsoft qui prend des décisions
Il écoute notre podcast en passant.
C'est ça. Mais il prend des décisions très intelligentes. Il commence à mettre des modes qui ont été faits par les fans dans le jeu standard.
Oui. C'est ben justement c'est de voir la communauté s'activer comme ça, puis voir aussi les développeurs dire OK, on aime ça, c'est cool. Puis on va vous donner un rôle dans le jeu qui va faire en sorte que vous allez avoir une belle loyauté aussi. Ben tu sais, c'est une façon de fidéliser les joueurs. Faut pas être fou, mais tu sais, c'est quand tu te sens quand tu es important en tant que gamer, je pense que t'as le goût de donner de l'amour à ce jeu-là et d'en parler à ton voisin, à ton ami. Dire, hey, moi je ce bout-là, c'est moi qui l'ai proposé. Non, tu sais, des affaires de même.
Exact, oui.
Puis, c'est pour ça que je vais vous parler de FNAF. Donc, FNAF, Five Nights at Freddy's, qui est un jeu, dans le fond, qui aurait peut-être pas dû être connu de tous, mais si vous avez des enfants à la maison, vous connaissez peut-être Five Nights at Freddy's parce qu'ils vous ont dit « Je peux-tu télécharger ce jeu-là? Tout le monde le joue dans la cour d'école. » Puis, aux adultes aussi, hein, les adultes ont joué, on l'a vu sur YouTube, un jeu qui est devenu très, très populaire, mais qui avait peut-être pas la recette nécessairement pour avoir un jeu qui est comme un best-seller que tout le monde connaît puis qui est une grande série. C'est Scott Cawthon, dans le fond, qui a comme... il a comme sorti ce jeu-là après une déception, parce que son premier jeu, ben son... le jeu juste avant qu'il a fait, c'est un jeu qui a été un vrai fail. Et c'est son jeu, ça s'appelle Chipper and Sons Lumber Company. C'est un jeu de base, mais le feedback qu'il a reçu sur ce jeu-là, c'est « Oh my God, les personnages font donc bien peur. » C'était pas du tout ça, l'objectif. Là. C'était family-friendly. Puis les gens se sont rendus compte que ben il était creep un peu. Puis lui a dit « Ah, je vais exploiter cet échec et je vais en faire quelque chose de magnifique. » Donc, il a sorti son jeu Five Nights at Freddy's, le premier de la série. Ça fait vraiment pas longtemps, là. C'est pas vieux, là. C'est comme 2014-2015. Ouais. C'est pas si vieux que ça. Et la communauté l'a trouvé tellement weird et a voulu savoir justement qu'est-ce qui se passait dans le cerveau de ce monsieur-là, parce qu'il est très, très secret. On connaît son identité, mais on n'est pas sûr que c'est vraiment ça. Il y en a qui ont essayé de le trouver sur, tu sais, dans les pages jaunes, là. Tu sais, c'est comme, c'est qui ce gars-là? Ils ont vraiment essayé de trouver ce monsieur-là parce qu'il reste dans son sol puis il est pas show-off, là.
Fait que c'est la personnalité d'un développeur, dans le fond, là.
Il est comme très anonyme, puis c'est très intéressant comme façon de nourrir la bête un peu, parce que tes fans deviennent de plus en plus intenses, plus intéressés. Ils veulent savoir des choses que les autres ne savent pas. Et lui, évidemment, a exploité ce côté-là, espiègle peut-être de ses fans, et il a inséré des secrets dans ses jeux.
Non,
c'est des jeux d'horreur en passant. C'est des survival, mais pas vraiment. C'est du point and click, on appelle ça. Donc, ceux qui savent pas à la maison, c'est tu pointes puis tu cliques avec ta souris.
Ah.
Et puis, il faut que tu survives. Fait que, donc, oui, c'est un petit peu un survival horror, mais tu bouges pas ben dans les premiers jeux. En tout cas, tu bouges pas ben. Faut que tu gères ta situation. Faut que tu essaies de survivre, dans le fond, ta nuit. Faut que tu survives. Puis, évidemment, tu vas avoir des jump scares, qu'on appelle, tu sais, quand un bonhomme qui te saute à l'écran. C'est vraiment ça, l'effet. Puis, là, on est saturé des jump scares, on en a plus besoin. Mais dans le temps que c'est sorti, ce jeu-là, c'était comme, ouh, c'est un autre genre de jump scare.
Une innovation, quand même.
C'est intéressant. C'est ça, c'est intéressant. Évidemment, ça l'a comme créé une folie furieuse. Les gens qui font des réactions intenses à Five Nights at Freddy's, des gens qui uploadent des vidéos sur YouTube pour ma réaction au saut d'horreur. T'sais.
D'ailleurs, je pense qu'on en a fait un vidéo il y a peut-être 2-3 ans.
Oui, c'est ça. C'est ouais. une des premières choses qu'il y a pas sur Star, l'a fait parce que c'était tellement un phénomène. C'était pas le Ice Bucket Challenge, mettons, là, mais tu sais, c'était dans la communauté gaming. FNAF était une grosse bête à nourrir parce que ça nous apportait des vues. Ça apportait aux gamers aussi d'en parler et d'en faire partie. Puis d'ailleurs, il y a plus de 1000, et je ne niaise pas, 1000 jeux fan-made, donc des jeux qui sont faits par les fans de Five Nights at Freddy's. Puis le développeur, lui, encourage beaucoup ça. Il va promoter ces affaires-là, il va en parler. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant du point de vue du gamer, de voir un développeur très, très proche de sa communauté. Il en fait partie. Il va laisser des messages sur Reddit et sur Steam où est-ce qu'il va lancer des indices. Les gens vont tenter de décoder ce qu'il dit parce qu'il parle de façon très précise. Puis il y a des gens qui essaient de regarder, OK, les premières lettres de tel mot, qu'est-ce que ça veut dire?
Oh.
Il y a les chaînes YouTube comme, mettons, Game Theory, qui est très populaire, qui va essayer de décoder, je pense qu'ils ont fait 15 épisodes sur la série, pour savoir, OK, c'est quoi la ligne de temps du jeu? C'est quoi que ça veut dire? Quel personnage est qui? Qui que tu es qui? Puis il est allé jusqu'à regarder dans la code source HTML des pages du site web du jeu, tu sais. Puis ils ont trouvé des réponses. Fait que le gars, Scott Cotton, qui s'occupe de ça, il est pas fou.
Ben, il met beaucoup de temps.
Il met beaucoup de temps là-dedans. Donc, c'est là où il y a vraiment le développeur, il met dans la main avec avec la communauté, mais, tu sais, il attise beaucoup. Il s'amuse avec. Puis je pense que c'est un des plus bels exemples de où est-ce que la communauté une belle relation avec son développeur. Puis je pense que n'importe quoi, ce qu'il va faire, tu sais, s'il décide de sortir un autre jeu, parce que là, FNAF, c'est pas mal fini.
Ouais.
Peu importe ce qui va sortir dans le futur, même si c'est pas si bon que ça, les gens vont se pitcher là-dessus. Puis c'est vraiment l'exemple de la communauté capotée. La communauté va continuer à capoter. Nous parler, dans le fond, du point de vue du développeur de la compagnie de jeux vidéo, on a invité Luc Duchesne d'Ubisoft, dans le fond, qui est chef de marque. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. On est très contents de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que c'est un sujet que, bon, nous, on peut en parler pendant des heures, mais on ne sait pas exactement comment se sent la compagnie derrière ça. Puis, vous avez un exemple où est-ce que vous avez comme intervenu, on pourrait dire, du côté développeur / compagnie, avec un jeu qui s'appelle For Honor. Peux-tu nous parler un petit peu de cette belle histoire-là?
En fait, sur For Honor, moi, je suis sur For Honor depuis plus de 5 ans maintenant. Puis dès le début, c'était notre désir. Depuis plus de 5 ans, on a fait une présentation à nos patrons à Paris. Puis une de mes slides, c'était « On veut créer une communauté de guerriers ». C'était ça le but.
Mm-hmm.
C'était vraiment d'avoir une optique très, très communautaire. Et on a commencé, dès qu'on a annoncé le jeu, on a permis aux gens de jouer. On a fait une première alpha 16 mois avant de lancer le jeu. Puis à ce moment-là, on avait créé un truc qu'on appelait « Play with Devs ». Les membres de l'équipe pouvaient jouer avec les membres de la communauté.
Ah.
On avait des uniformes avec des logos Ubisoft. Oh.
C'est donc un coup.
Fait qu'on jouait, puis c'était sous NDA, les gens pouvaient pas en parler publiquement, mais on a dit, moi, un de mes trucs forts, c'est la proximité. Il faut qu'on soit proche des gens. Fait qu'on jouait avec eux. Il y a 62% des joueurs qui ont joué avec ou contre nous autres pendant ce week-end-là. Puis c'était pas 2000 joueurs, là, c'était genre 25-30 000 joueurs pendant ce week-end-là. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé, puis ça a permis de faire des améliorations dans le jeu. Ça a permis de donner un ton au jeu, de changer certains trucs, justement, quand vous parlez d'accès anticipé.
Mm-hmm.
Mais ça nous a permis, justement, d'améliorer notre jeu puis de faire plusieurs autres tests comme ça dans le futur. Mais ça, For Honor, c'est un truc qui est très, très cher à nous, là, de travailler avec notre communauté, de leur parler, de les écouter, puis d'être hyper actif sur les réseaux sociaux.
Dans le fond, comment ça fonctionne chez Ubisoft? Là, je ne sais pas si vous pouvez nous révéler vos secrets, mais quand tu parles de For Honor, est-ce que c'est l'équipe For Honor qui a décidé, OK, nous, on veut avoir cette approche-là avec notre communauté? Parce que j'ai pas l'impression, mettons, qu'on fait ça avec, mettons, Far Cry.
Ouais.
Chaque jeu est différent. Chaque jeu a son approche, a sa personnalité. Far Cry la sienne, Rainbow la sienne. Moi, étant sur For Honor, je peux en parler de long en large. Mais nous, c'était, c'est, on est vraiment les, au même titre qu'on a la liberté créative de faire notre jeu, mais c'est la liberté créative de savoir comment on va interagir avec notre communauté. Donc, nous, c'est ce qu'on a poussé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Ça fait 20 mois que le jeu est lancé, puis on a un stream à chaque semaine, le jeudi midi. Le directeur créatif, le directeur de jeu, moi, le producteur, on va sur le stream, on parle avec les gamers, on leur explique les changements qu'on fait. Vous avez dit un truc intéressant tantôt, je vous écoutais. Mais plusieurs trucs intéressants, mais un que j'ai pris une note, c'est de ne pas garder les gamers dans le noir.
Oui.
Tu sais, des fois, il y a des problèmes, puis malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, ça arrive qu'on se plante. Tu sais, ça arrive qu'on fait de quoi, on pense pas que ça va avoir ce résultat-là, puis on se dit « Ah, shit! » Mais faut le dire. Nous autres, on a annoncé là 6 mois avant de lancer des serveurs dédiés qu'on était pour aller en serveur dédié.
Mm-hmm.
Même si c'était pas prêt, mais les gens râlaient contre notre architecture peer-to-peer,
mm-hmm.
avec raison. Puis on a dit, OK, on va le dire tout de suite. Ouais, mais ça. Puis là, tout de suite, tu vois les forces là de en présence qui disent, ouais, mais c'est pas prêt, on peut pas en parler tout de suite. Je dis, non, non, non. On le dit maintenant.
Mm-hmm.
Puis on l'a dit, je me rappelle, en juillet l'année passée, en 2017, on s'en va en serveur dédié. Fait que les gamers le sachent, mais c'est primordial parce que ça fait. Ils sont tellement actifs, le knowledge des gamers est tellement rendu grand versus à quand moi j'ai commencé dans l'industrie, que ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans, que ben aujourd'hui, ben c'est tous les réseaux sociaux, ben tout se parle, donc faut leur parler.
Puis est-ce que ce genre de transparence-là fait peur à tes supérieurs?
Aux cravates, ouais. Mettons.
Ça fait peur à bien du monde.
Ouais.
Pas juste aux cravates, mais en fait, c'est je pense que les cravates sont ceux qui voit ce changement-là arriver des fois plus vite que d'autres.
OK.
Mais le développeur, c'est, tu sais, t'es dans ton optique. On fait une génération de développeurs qui a commencé à faire des jeux alors qu'ils étaient vraiment au cœur de la cible. Tu sais, on était dans la mi-vingtaine, puis on faisait des jeux, puis les joueurs avaient notre âge.
Ouais.
Là, on est rendu dans la mi-quarantaine. Fait qu'on commence à être un petit peu plus déconnecté du quotidien. Donc, il y a des gens qui sont comme, ouais, mais est-ce qu'on veut vraiment en parler? Puis ça, c'est normal. C'est un changement qui est vraiment important. Ça change nos façons de faire. Si on regarde depuis 5 ans, les changements à ce niveau-là, c'est majeur. Donc, c'est normal d'avoir peur, mais les gens ont apprivoisé ça petit à petit. Puis notre stream que je parlais, mais au début, les gens étaient comme, je suis pas sûr que je veux y aller. Puis maintenant, quand on en fait, mais les gens sont honorés d'être invités et de venir parler de leurs nouveaux features, de la modification qu'ils font, de la direction artistique, parce qu'ils ont un public qui les écoute. Puis ils sont comme, hey, c'est le fun, je peux interagir avec ce monde-là.
Ben, on l'a vu, d'ailleurs, je sais que The Division aussi était très présent sur oui. Reddit. Là, vous êtes présent aussi sur Twitch. Est-ce qu'il y a d'autres marques chez Ubisoft qui vous suivent un peu ou qui vont le faire?
Ben oui, il y en a d'autres. Puis The Division, pour moi, c'était vraiment une inspiration. Je me rappelle, ils sont sortis avant nous, là. Puis quand que nous, on a commencé à travailler, je m'étais assis avec mon collègue en Suède, puis il m'avait dit, Luc, la communauté, il faut vraiment que tu le pousses. Il faut que vous soyez présent, il faut que vous soyez actif. J'avais dit, ouais, t'as un bon point, puis on a continué à bâtir là-dessus, puis de plus en plus, les gens en parlent à l'interne, comment on peut travailler, tu sais, on vous disait Twitch, mais c'est sur Twitter aussi. Tu sais, nous autres, moi, je suis actif sur Twitter, notre directeur de jeu aussi, on répond directement aux questions, on fait des meet-ups, on est allé à Gamescom, on a fait un meet-up dans un bar là-bas.
De fans de For Honor, oh, hey, wow. C'est dommage, cool. Ça, c'est
on en a fait un à PAX, moi, j'étais pas à PAX, là, je viens de me faire opérer, mais la semaine avant, j'étais à Gamescom, avant de me faire opérer, puis les gens, ils viennent, puis... Tu sais, il y a des kids là-bas, la beauté avec l'Europe, c'est que c'est grand, mais en même temps, tout est proche. Il y avait un kid qui venait d'Hollande, il venait avec son père, il est venu rencontrer. On arrive à créer des liens avec ce monde-là pour aujourd'hui, mais ils nous parlent sur Twitter, puis ils nous suivent, puis ils nous donnent des suggestions. C'est vraiment, vraiment intéressant.
Puis quel impact que ce genre de changement-là peut avoir sur les ventes, sur le succès du jeu en question? On ne demandera pas des chiffres, là, mais mettons, grosso modo, qu'est-ce que ça vous a redonné, de donner dans la communauté?
Mais en fait, ce que ça a redonné, c'est que nous, quand on a lancé le jeu, pour ceux qui ont suivi For Honor, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu d'énormes problèmes techniques. J'essaierai même pas de les cacher puis de les nier, là. Je serais un menteur. On a eu des problèmes techniques. Mais à travers ces problèmes-là, comme on a parlé à notre communauté, je me rappelle encore, la fin mars 2017, notre producteur est allé sur le Twitch puis a dit, on a des problèmes, on le sait, voici nos priorités, c'est lesquelles on va travailler. Puis on updatait les gens. Mais en les gardant impliqués, en les gardant dans le cercle, mais ils ont suivi nos progrès, ils ont fait en sorte qu'on a pu passer à travers une période difficile pour ben, être encore vivant 20 mois plus tard. Parce que s'il y a un an, quoi qu'il y a un an, ça allait un peu mieux, mais en juillet 2017, il n'y a personne qui pensait que For Honor survivrait. Les gens disent, ah, ce jeu-là, il est mort. Ben, on est rendu plus de 15 millions de joueurs.
Tabarouette!
Wow, fait
que,
okay.
Tu sais, c'est plus de 15 millions de joueurs. C'est énorme. Puis, ben, ça, on le doit beaucoup à notre communauté. Tu sais, à l'E3, cette année, quand on a annoncé notre expansion Marching Fire.
Oui, oui.
Notre directeur créatif est allé sur scène, puis a commencé sa présentation en disant, les joueurs, les casters, vous êtes For Honor. C'est vraiment comme ça qu'on le sent, parce que sans le support de la communauté, tu sais, des fois, c'est dur. Là. Des fois, on se prend des commentaires et on est comme, ah! Oh,
ça fait mal.
Ça ouais. fait mal.
Oui.
Parce que la communauté, autant qu'elle peut t'aimer, autant qu'elle peut te rentrer dedans, mais,
oui.
Tu sais, on a testé un feature en septembre cette année qu'on a décalé la sortie parce qu'on s'est fait ramasser de tout bas, de tout côté. On a dit, ouais, vous avez, les gens ont aimé la notion. C'est un système de dialogue qu'on intégrait dans le jeu. Les gens aimaient l'idée, mais pas l'exécution.
Mm-hmm. OK.
Donc, on a dit, OK, on va le retirer, on va continuer à travailler, puis on va le ressortir quand il va être prêt.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est, les gens nous font, OK, vous nous avez écoutés. T'sais, vous n'avez pas fait comme la, on le sort, puis vous n'êtes pas là, vous n'existez pas.
C'est ça, le lancer dans l'univers, puis naturel.
Exactement. C'est avant, il y a une époque, justement, quand on ne pouvait pas patcher les jeux. Moi, j'ai connu cette époque-là. Où on lançait un jeu, puis ce qu'il y avait sur la galette, ce qu'il y avait sur le disque, ben c'était ça.
Ouais.
S'il y avait des problèmes, mais viens avec tes problèmes, mon champion.
Ben, Superman, 64.
Puis, puis comment vous faites pour trouver l'équilibre, justement, entre ce que la communauté dit et ce que vous vous donnez? Parce que, mettons, on regarde, il y a des développeurs qui font des updates à chaque semaine, des blogs dev, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, un dev blog. Puis là, ben, la communauté est comme, OK, mais c'est parce qu'on se tourne les pouces, puis on attend, puis on attend, puis on attend. Là, vous, au moins, vous avez l'avantage que le jeu est sorti. Mais comment vous trouvez justement cet équilibre-là, parce que des fois, la communauté va dire, OK, mais moi aussi, je veux ça, puis moi aussi, je veux ça. Comment vous le faites? Là?
L'équilibre est vraiment pas facile à trouver.
Ouais. Mmh.
Parce que des fois, tu peux pas faire tout ce que la communauté demande. Puis des fois, c'est pas... On dit la communauté au sens large, mais des fois, c'est quelques personnes qui réclament quelque chose. Ils vont dire, ouais, le jeu a tel problème. Puis des fois, c'est un problème de perception. Des fois, nous, on voit le data. Nous, on a accès à tout le back-end. On dit non, c'est pas vrai, ce bonhomme-là, il est pas moins bon qu'un autre bonhomme. Il y a un fight loss ratio de 50% qui est ce que tu cherches d'un personnage. Donc, c'est de mesurer autant avec notre data. Après ça, c'est de voir le volume. T'sais, s'il y a un problème qui est remonté, tu as une personne qui a déjà un problème, le jeu il lag, da. Ça se peut que ce soit vrai, mais ça se peut qu'il y ait une connexion Internet pourrie
ouais.
ou que sa petite sœur écoute My Little Pony sur Netflix en même temps.
Ouais.
Tu sais, ça se peut ça. Donc, il faut essayer de mesurer. Mais quand ça se bâtit, puis tu as plusieurs personnes, faut essayer, nous autres, on essaie de le moduler. On a des gestionnaires de communauté, puis on essaie de moduler. OK, est-ce que ça a d'attraction? Est-ce que. Puis on enquête. On a des gens sur le projet qui vont aller faire, qui vont traquer. Est-ce qu'on a vraiment un problème, là? Est-ce que. Puis eux-mêmes, on a des équipements sur le plancher pour aller voir le jeu en live, là, hors du réseau Ubi. On va se loguer sur une connexion Vidéotron, puis on. Comme vous avez à la maison, comme j'ai à la maison, puis on teste. Si ça marche ou pas. Donc, mais l'équilibre est très difficile à trouver.
Moi, j'imagine que dans le fond, il y a souvent du feedback qui est peut-être d'un fan, mais qui est un petit peu plus difficile à entendre, un petit peu plus rough. Puis là, c'est comme, OK, ben il faut doser. Est-ce qu'on n'aime pas le commentaire parce que ça nous blesse ou est-ce qu'on n'aime pas le commentaire parce qu'il n'est pas important au développement du jeu, tu sais?
Mais des fois, faut... Parce que souvent, il y a deux mots. Il y a écouter et comprendre.
Mm-hmm.
Faut entendre, pardon. Des fois, tu peux entendre ce qu'il faut, mais faut écouter vraiment. Tu sais, t'entends le commentaire, mais faut vraiment écouter. C'est quoi? Puis après ça, faut le comprendre. C'est quoi vraiment qu'il dit? Tu sais, quand on parlait, par exemple, de balance, du jeu, le balancing, mais des fois, c'est pas du balancing. C'est que le personnage est plate à jouer.
Mm-hmm.
Il y a un bon win-loss ratio, mais il y a des mouvements de ce personnage-là qui sont pas intéressants. Donc, faut essayer de creuser. Puis ça, c'est notre travail. Tu sais, on a des designers sur le projet, on a des gens qui vont analyser ces feedbacks-là. Puis on a des playtests, puis on a. Donc on essaie de sonder au sens large aussi pour voir est-ce que c'est un truc qui est isolé à quelques personnes ou c'est plus massif. Mais c'est super important de les écouter, en fait.
Est-ce que vous offrez des exclusivités à la communauté qui est un petit peu plus près de vous, mettons, peut-être un indice sur ce qui s'en vient ou est-ce qu'ils sentent peut-être qu'ils sont un petit peu VIP?
Oui.
Oh.
Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, ce qu'on a fait, nous, dans la dernière année, on a fait des workshops. On amène des gens d'Europe, des États-Unis, de Montréal, du Canada. On les amène au studio 3-5 jours. Par exemple, la faction chinoise, le Wulin qu'on a annoncé à l'E3, mais ils ont commencé à le jouer en février l'année passée. En février, on a fait un gros stream de début de saison, parce qu'on marche par saison. Puis on a profité du fait qu'on avait 8 de nos meilleurs joueurs au monde qui étaient là. pour 2 jours avant le stream de faire jouer un nouveau personnage. Une chose qui était annoncée génial, 4 mois plus tard. Puis à quelque part, quand tu y penses, là, c'est fréquent parce que tu dis là, on vient de donner à 8 joueurs notre contenu qu'on va annoncer à l'E3.
C'est stressant quand même.
Oui, dans mon métier, c'est très stressant.
Oui, non, c'est ça.
Mais on leur fait confiance, puis on a réussi à bâtir cette confiance-là. Après ça, on a un channel Discord où nos fight designers parlent avec un pool de joueurs, puis ils vont tester des idées. Ils disent, OK, sur tel personnage, on veut modifier tel move, vous en pensez quoi? Ah non, pas tel move, tel move-là est important. OK, on veut faire tel truc, vous en pensez quoi? Donc, il y a du bouncing d'idées qui se fait sur notre channel Discord aussi. Puis des fois, on donne pas nécessairement des cadeaux, mais dernièrement, on a donné à des membres de la communauté. On a, autant à l'E3 qu'à Gamescom, les posters qu'on donnait aux visiteurs étaient dessinés par des membres de la communauté.
Ah, du fanart!
Oui, c'est du fanart qu'on donnait. Cool. C'était demandé par nous. On a contacté une fois un gars aux États-Unis, une fois un gars en Europe. On a dit, fais-nous un art. Voici des trucs.
Puis, ça, c'est génial.
Puis ils ont fait un art qu'on donnait. Puis on a aussi une épinglette qui a été désignée par une de nos membres de notre communauté, je pense qu'elle est en Australie ou en Nouvelle-Zélande. English Butter, qu'elle s'appelle sur Twitter.
English Butter.
Ouais.
Oh.
Puis maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré ces éléments-là dans le jeu. Donc, les membres qui sont très actifs ont maintenant peuvent avoir comme customisation les symboles qu'elle a désignés.
Ah, oh,
c'est okay. Génial.
Mais dans le fond, on a parlé un petit peu de teaser qu'on offre à la communauté. Est-ce que tu peux nous offrir peut-être un pas un teaser, mais ce qui s'en vient pour For Honor, si tu peux en parler?
En fait, 2019, on a annoncé dans le stream de saison du 11 octobre le Year of the Harbinger. Donc, il y a du contenu 2019. On n'a pas fini. On veut continuer à supporter ce jeu-là, à le développer, à l'améliorer, à en donner toujours plus à la communauté.
Ben, c'est super. Ben, merci génial. Beaucoup d'être venu nous en parler. C'est un bel exemple. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. On prend le temps d'analyser ce qui se passe dans notre communauté, dans notre jeu, puis on va faire quelque chose, on va être proactif, on va sauver ce bébé-là.
C'est renaître de ses cendres.
C'est ça, c'est renaître de ses cendres. Moi, je trouve tellement que c'est une belle histoire. Ça donne le goût d'y jouer, je trouve.
Ben oui, tout à fait, surtout quand on sait qu'on a été écouté. Hein,
mais c'est ça, sortez vos épées, gang.
Le jeu cheap de la semaine.
Parce qu'on veut encourager ces compagnies qui sont engagées avec la communauté, on va vous conseiller de regarder le bundle de Five Nights at Freddy's.
Oui, justement, on en a parlé, c'est un bel exemple.
Ben oui. Donc, le bundle comprend 5 jeux et il coûte environ 33 $.
Là, on vous pensez 33 $, ouais. Mon Dieu, c'est cher, mais un bundle, ça veut dire que c'est un paquet de jeux.
Donc, c'est 5 jeux. Et si ben ça vous tente pas de les acheter tout ensemble, les jeux tout seuls se détaillent entre 6 et 8 $. Là. Donc, puis comme moi, je suis ultra chicken, ben je sais que Kasi, elle, est en amour fou avec cette série-là.
Oui, j'aime beaucoup la série, mais je suis pas bonne.
Ben, c'est pas grave.
C'est beaucoup de... Je suis bonne dans les jeux de gestion en général, mais pas gestion avec un... Avec une horloge.
Mais t'aimes ça, toi, les séries weird pis.
Ben oui, les affaires bizarres. Tu sais, là, c'est des nounours qui te sautent d'en face, là. Tu sais, pour vous mettre en contexte un peu,
C'est weird.
C'est weird.
C'est vraiment weird. Merci beaucoup, Kasi. Écoute,
merci,
je pense qu'on
toi.
A eu un super beau podcast. On a eu des belles réponses aussi.
Ouais, je suis contente. Moi, je trouve que c'est un sujet qui fait plaisir. Parce que ça peut enrager des fois quand on parle des exemples super négatifs, là. Tu sais, mettons, exemple. Electronic Arts.
Ouais, c'est ça.
C'est des exemples qui enragent, mais il y a tellement des belles histoires de communautés de jeux qui ont été propulsées au sommet. Puis, je veux pas, nous autres, on est des passionnés de la culture du jeu vidéo, je pense.
Ben oui, surtout. Puis, c'est surtout le fait que, tu sais, on est près de notre communauté aussi, là. On se le cachera pas. On est notre communauté.
Oui. On jase avec vous tout
c'est
le temps.
Ça, exact. Donc, c'est quelque chose qui était tellement cher à nos yeux. Puis, je sais que ça Il y a beaucoup de gens qui se fâchent là, quand ça marche pas. Là.
Ouais.
Puis nous, les premiers, là, on est les premières à se fâcher. Fait que d'entendre ça, puis surtout d'entendre que ça vient d'ici, là, de Montréal, de voir qu'un studio majeur de Montréal fait l'effort d'entendre et d'écouter.
Oui, ce et qu'on de. Tu sais, de pas mentir, d'être direct avec la communauté, de dire OK, d'être vulnérable un peu.
Il faut, c'est ça. Puis je pense que ce qui fait, c'est que ça rend le jeu vidéo plus humain.
Ouais, ça le rend plus attirant aussi. On dit, OK, il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce qui se passe en ce moment. Il y a de l'amour dans tous les jeux, je pense, mais il y en a qui sont un petit peu plus froids que d'autres,
mettons. C'est pas beau ce que tu dis. Oh, wow! Fait que, ben, merci énormément. Puis, c'est sur ça, ben, on va se revoir dans un prochain podcast.
Oui, et si vous voulez suivre, dans le fond, tout ce qu'on fait sur les internets, allez sur twitch.tv/pèse sur start ou facebook.com/pèse sur start. Pensez-vous qu'Instagram, c'est pèse sur Start? Ben oui, c'est pèse sur Start. Donc, suivez-nous par tourner sur Twitter, etc., etc. La meilleure place, dans le fond, pour jaser directement avec nous, si vous voulez, on a une chaîne Discord. Vous pouvez trouver le lien sur notre page Facebook. Puis là, vous pouvez dire comme, hey, Cass, j'ai vu ce mème-là, il est vraiment weird, là. Tu vas aimer ça, c'est un mème de Farming Simulator.
Ouais, on s'envoie littéralement des mèmes entre viewers et nous autres.
C'est on a des inside jokes. Moi, je pense que ce qui est le plus fun avec notre communauté, c'est qu'on a des inside jokes.
Ah ouais, littéralement. Ils nous connaissent parce que on a des inside jokes puis on se dit des affaires niaiseuses.
Ouais.
C'est beau.
Bye!
Okay, bye. À l'animation, Christine Lemieux, ça c'est moi. Cassie Sharp, ça c'est toi. Yeah!
À la réalisation, Bastien Gagnon, La France. Au montage, Philippe Séguin.
Notre musique d'introduction composée par le magnifique Fred Poirier. Et c'est une production Cube Radio.